Selon BCG, 70% des initiatives de transformation numérique ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. Le rapport Chaos 2020 du groupe Standish annonce 66% des projets logiciels échouent. Parmi les raisons qui font qu'un projet peut être considéré comme un échec, on retrouve le projet n'a pas atteint ses objectifs, les travaux n'ont pas été achevés à temps ou les produits livrables n'ont pas répondu aux attentes des parties prenantes. Si on interprète un peu ces résultats, on peut en déduire qu'il existe un décalage fort entre ce qui a été défini dans la phase de conception et ce qui était censé amener de la valeur, ce qui est délivré. Cette rupture peut avoir plusieurs causes, organisation du projet, temporalité d'action des acteurs, interaction entre les compétences. Ces échecs coûtent cher puisque, toujours selon le rapport Chaos, la perte estimée aux USA en 2020 s'élève à 1,56 milliard de dollars. Mais au-delà du côté financier, c'est aussi du temps passé, c'est de l'effort, c'est de l'humain. Et ce phénomène n'est pas l'apanage des gros projets, on peut le constater sur tout type de projets digitaux. Alors, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de repenser la façon dont nous organisons les projets? Et si finalement la clé résidait dans l'utilisateur final? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Chabal, qui est consultant UX et PO chez Sogilis. Bonjour Romain.
Bonjour JS.
Alors Romain, je te laisse te présenter rapidement pour nous dire un petit peu ce que tu as fait, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui.
Oui. Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je m'appelle Romain Chabal, comme tu l'as dit, actuellement consultant UX et Product Owner chez Sogilis. Depuis toujours, je suis attaché, et c'est mon fil rouge, à inclure de manière beaucoup plus prononcée les utilisateurs finaux dans les projets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inclure les utilisateurs finaux? Ça veut dire les associer à différentes étapes, dès le début, pendant et après la réalisation d'un projet. Donc, je suis un professionnel de l'UX, de l'expérience utilisateur. J'ai commencé à travailler sous l'angle du développement logiciel. J'ai très rapidement constaté un décalage entre ce qu'on pouvait coder, écrire, et la manière dont il était utilisé, parfois d'une manière inattendue, parfois avec des interprétations qui n'avaient pas été anticipées, ce qui m'a très rapidement amené à m'intéresser de plus près à la compréhension des utilisateurs et à l'utilisation de ce qu'on apprend avec eux pour venir nourrir les projets de développement digitaux.
C'est très clair. Merci beaucoup, Romain, pour cette présentation. Alors, ce que je te propose, on va avoir un podcast qui va être plutôt une conversation en bâton rompu qu'on a préparé dans les grandes lignes. Mais la première idée, quand on parle de projet, et c'est un peu ce que tu as mis dans cette introduction, c'est de se poser la question, quel est le constat? Qu'est-ce qui se passe dans les projets? Et finalement, ce qu'on a mis en introduction, pourquoi ils échouent? Est-ce qu'on ne reviendrait pas sur la façon dont on monte les projets régulièrement aujourd'hui, alors que ce soit en agence ou dans des ESN ou que ce soit en entreprise? Comment les projets informatiques ou digitaux sont montés? Toi, qu'est-ce que tu vois régulièrement, par exemple?
Alors, un constat qu'on fait souvent, on va parler de deux grandes phases qui reviennent souvent. Alors, je n'ai pas la prétention, évidemment, à dire que tous les projets digitaux sont menés de la même manière et que ces deux phases sont systématiquement déclinées, encore une fois, de la même manière. Ces deux grandes phases, ça va être une phase de discovery, d'exploration, et une phase de delivery, de réalisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend en général par exploration ou discovery? Ça va être cerner un problème qu'on cherche à résoudre. Mieux comprendre ce problème, comment il impacte des utilisateurs, de quelle manière, comment ces utilisateurs procèdent aujourd'hui pour résoudre ce problème, et comment on pourrait les aider via d'autres outils, via d'autres services, à mieux le résoudre. La phase de réalisation, elle est assez explicite en termes de nom, hein, delivery, on va venir livrer une solution. Et pour cela, on va devoir la développer. Dans le cadre d'un projet digital, ça implique la plupart du temps d'impliquer des développeurs, des compétences qui vont venir réaliser un logiciel, réaliser une application mobile, réaliser un outil qu'on va pouvoir mettre à disposition des utilisateurs.
Ok. Dans ce que tu décris, finalement, on voit qu'il y a vraiment ces deux grosses étapes qui font appel à des compétences différentes. Finalement, ce qu'on a tous les deux dans nos métiers souvent identifié, c'est qu'on voit une rupture s'opérer entre ce qu'on a imaginé au départ, la partie vraiment de conception, et ce qui a été développé à la fin. Et finalement, que ce soit pour l'utilisateur final où la valeur n'est pas présente, ou que ce soit pour le client qui parfois peut être déçu, on observe ce déphasage. Est-ce que c'est ce que tu constates aussi de ton côté ?
Alors tout à fait. Quand il y a une rupture de continuité, ça a un impact direct sur le projet avec un risque élevé de livrer quelque chose qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus aux besoins des utilisateurs qu'on souhaite cibler. Qui ne correspond pas parce que dès le démarrage, on est tombé à côté de la cible, et qui ne correspond plus parce qu'on va rentrer dans une logique de réalisation qui va prendre tellement de temps qu'on va arriver trop tard. Alors trop tard, pas forcément trop tard après des concurrents, parfois trop tard par rapport à l'évolution des usages qu'il y aura pu avoir entre-temps. Alors effectivement, pourquoi ces deux phases, il peut y arriver qu'il y ait une rupture entre les deux ? C'est parce que dans la plupart des cas, elles sont portées par des professionnels différents. La phase d'exploration, on va retrouver tous les métiers de l'UX, de l'expérience utilisateur, de l'expérience client, et les métiers du marketing qui vont chercher à comprendre les évolutions d'usage du marché, les opportunités marché qui peuvent se présenter. Dans la phase de réalisation, et notamment dans le cadre de projets agiles, on va retrouver par exemple des équipes Scrum avec un product owner, une équipe de réalisation avec des développeurs plus spécialisés back, des développeurs plus spécialisés front, des testeurs. Il peut y avoir aussi des designers qui vont contribuer à dessiner les écrans. Tout un écosystème de tests, de déploiement, d'intégration. Ce sont deux univers différents, complémentaires, qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler main dans la main, surtout quand les projets sont séquencés. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase d'exploration qui va se terminer et qu'on va livrer des enseignements à une équipe de réalisation qui va prendre en charge un projet jusqu'à sa livraison finale.
Et finalement, alors c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les projets qui sont montés un peu avec un effet tunnel. Hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette phase de conception où on va essayer de répondre à la problématique, dessiner des jolis écrans, voir quel va être le comportement, comment ça va se faire. Et derrière, on rentre dans cet effet tunnel du développement. Ce que tu disais tout à l'heure, il y a un aspect structurel, un aspect conjoncturel, c'est-à-dire en fait finalement le monde continue à avancer autour du projet et il y a un décalage qui peut exister. Donc entre ce qu'on avait imaginé au départ et le monde dans lequel on arrivera à l'arrivée du projet, finalement les choses ont peut-être un petit peu changé. Et structurellement, c'est la compréhension qui est faite des équipes qui vont développer de ce qui a été conçu au départ peut amener des décalages par rapport à ce qui est produit. Et en fait, ce qu'on identifie, c'est que ce qui manque là-dedans, c'est de l'interaction, c'est-à-dire plus que les compétences, et on ne parle pas des compétences des développeurs ou des designers ou des UX designers, parce qu'ils ont clairement les compétences de leur métier, mais le manque d'interaction qui existe entre ces compétences fait que finalement, on a des référentiels qui vont être différents et qui vont créer des micro-décalages, des micro-déphasages qui, additionnés les uns à la suite des autres, finissent par créer un fossé entre ce qui est livré par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ. Est-ce que plus spécifiquement, tu peux préciser quel est le rôle d'un UX designer, et pas que designer d'ailleurs, ou d'un lead UX par exemple, et d'un product owner sur un projet pour qu'on cerne bien le cadre dans lequel on agit ?
Oui. Alors, je vais donner ma vision du métier de l'UX, donc qui ne prétend pas être une définition, c'est la manière dont je conçois le métier et je le pratique, et plus largement la manière dont on le conçoit et on le pratique au sein de nos équipes chez Sugilis. On fonctionne en trois temps, que je pourrais résumer ainsi, avant, pendant, après. Donc l'univers de l'UX, il englobe ces trois temporalités. En amont, on va parler de recherche utilisateur, UX research, d'exploration. Là, on est vraiment dans le discovery. On va avant tout observer et écouter. Observer et écouter les utilisateurs finaux, des clients qu'on souhaite cibler, des usagers, des êtres humains avant tout, pour comprendre comment, actuellement, ils résolvent leurs problèmes, quelles sont les solutions qu'ils utilisent, dans quel contexte, de quelle manière, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et potentiellement quelles sont leurs attentes. Est-ce qu'ils ont des besoins qui ne sont pas complètement satisfaits et qu'ils attendent d'autres solutions pour satisfaire ces besoins ? Le pendant, on va vraiment parler là de phase de design. Un UX designer pur, on a des UX designers qui ne travaillent que sur la phase de conception. Où là, effectivement, on va venir designer un parcours utilisateur de bout en bout. Donc un parcours utilisateur, c'est une suite d'étapes qui permettent à quelqu'un d'atteindre son objectif. La déclinaison de ce parcours va se faire dans le cadre d'un produit digital sous forme d'une suite d'écrans avec lequel l'utilisateur peut interagir. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire un parcours, on utilise souvent le mot fluide, quelque chose qui coule très naturellement, un parcours sans friction. On parle parfois d'interface transparente, qu'en fait l'interface, elle disparaît et l'utilisateur est complètement plongé dans son action, il veut satisfaire son besoin, atteindre son objectif. Et la troisième phase, le après, ça va être la partie d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va venir tester avec, encore une fois, des utilisateurs finaux, soit sur un prototype, on peut chaîner des écrans via un prototype interactif, soit sur une pré-production, soit sur un logiciel qui est déjà en production. Alors tester avec des utilisateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire leur montrer quelque chose et leur demander ce qu'ils en pensent. Ça veut dire leur confier des petites missions qui correspondent à ce qu'ils ont l'habitude de faire et les observer, essayer de faire la petite mission sur le prototype ou le produit qu'on leur a confié. Et de constater, là où on a atteint notre objectif, là où on va valider nos hypothèses, on a réussi. Et à l'inverse, des hypothèses qu'on va infirmer, on va constater des dysfonctionnements, des mauvaises interprétations, et on va remettre l'ouvrage sur le métier.
Donc là, on est vraiment sur la phase de conception. C'est-à-dire, avant même d'avoir pondu une ligne de code, on fait tout ce travail-là pour émettre des hypothèses, les confronter à une réalité et vérifier si elles sont valides ou pas.
Tout à fait.
OK. Derrière vient la phase de réalisation, et c'est là qu'on a cette notion de product owner qui rentre en jeu.
Tout à fait. Donc le product owner, la personne, enfin j'ai envie de dire le document qui le définit le mieux, le product owner, c'est un rôle de la méthodologie Scrum. Donc il est très bien décrit dans le guide Scrum. Scrum, c'est une des méthodes agiles. Il y en a d'autres, comme Extreme Programming par exemple. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'une méthode agile, avant tout, c'est une recette opérationnelle pour décliner le manifeste agile, qui est un socle de valeur.
Moi, de mon côté, je le compare souvent à un framework, une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de principes, d'outils qu'on peut aller piocher, mais qu'on doit adapter à un contexte particulier.
Tout à fait. Donc le product owner, il porte la vision du produit. Il doit avoir justement ce cap clairement en tête, vers où on veut aller, vers où on veut emmener le produit. Il ne connaît pas encore le chemin précis. Mais il partage cette vision avec une équipe. Il va fédérer une équipe pour qu'elle monte à bord et qu'elle trouve le meilleur chemin pour atteindre cet objectif.
OK, donc c'est beaucoup plus clair là sur les rôles. Maintenant, ce qui va nous intéresser par rapport à l'introduction qu'on a fait tout à l'heure, c'est de se dire, maintenant qu'on a bien compris ce qu'il y avait dans la phase de conception, qui interagissait sur la phase de conception, ce qu'il y avait sur la phase de réalisation, qui interagissait sur la phase de réalisation, pourquoi on se retrouve avec ce déphasage? Pourquoi est-ce qu'on a des projets qui tombent? Quel est de ton côté, finalement, qu'est-ce que tu vois comme conséquence? Quelles sont les analyses que tu fais derrière?
Alors, le premier constat, quand on parle d'agilité, on parle d'accueillir favorablement le changement. Parce qu'on sait qu'à l'échelle du développement d'un produit digital, qui s'étale sur une durée qui peut être assez longue, de plusieurs mois, voire, dans certains cas, plusieurs années, il y aura du changement. Ça veut dire que même si on ne perd pas de vue l'objectif final, le cap, on peut avoir à adapter son chemin parce que il y a des vents contraires, parce qu'il y a des obstacles inattendus sur la route, parce qu'il y a besoin de faire escale pour réparer le bateau. Ce qui arrive, quand ça arrive comme ça, c'est-à-dire que quand la phase de conception elle vient complètement en amont, elle est clôturée et on confie à une équipe de réalisation, on va dire un ensemble de maquettes, un ensemble de guidelines qui vont être déclinés dans un backlog, le risque, c'est que le rôle du product owner se restreigne à exécuter ce backlog de la meilleure manière possible, mais que lorsque le changement survient et qu'il faille réinterroger certaines spécifications, voire actualiser un besoin utilisateur, on n'est plus avec soi les compétences UX, un consultant UX avec soi, et que du coup on fasse des adaptations au fil de l'eau qui vont être un petit peu des rustines, des réparations qui vont permettre au bateau de ne pas couler, mais qui va faire qu'on va perdre en qualité dans le produit final.
Donc là, en fait, on voit clairement qu'on a, dans la phase de réalisation, on perd quelque chose puisque l'UX designer n'est plus là. Donc dès qu'on a un changement qui apparaît, qu'on a besoin de faire une modification, finalement, sa compétence est manquante et on finit par faire une sous-adaptation, quoi. Est-ce qu'il t'arrive d'observer d'autres éléments qui amènent justement à ces déphasages, à cette rupture qui va exister entre la conception et la réalisation ?
Alors, il y a d'autres éléments, parce que le fonctionnement que je viens de décrire, c'est bien heureusement pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive quand même suffisamment souvent à rester en lien avec une démarche de discovery continue, une démarche d'exploration utilisateur qui peuvent être faits au fil de l'eau tout au long du projet, que ce soit en sollicitant des compétences extérieures ou alors en embarquant de manière intégrée ces compétences au sein du projet. Même quand c'est le cas, il y a deux choses qui peuvent survenir. La première, c'est que ce soit fait trop tard. Dans l'exécution, on va dire, d'un backlog, l'exécution des sprints, on est dans un rythme qui est assez soutenu, il y a un cadençage assez important qui est fait. Si on veut embarquer en continu cette dimension UX, c'est très important qu'elle soit faite suffisamment en avance. On parle parfois de deux sprints d'avance pour avoir le temps d'explorer ce besoin et de le respécifier. L'autre problématique qui se pose, c'est une problématique de communication et d'interprétation et de prise de décision. Je m'explique, on est sur des métiers qui sont différents, avec un prisme d'interprétation du projet qui n'est pas le même, des objectifs qui peuvent ne pas être les mêmes. Quand on parle de priorisation au sein d'un backlog, on va souvent parler de priorisation par la valeur. Ce qu'on veut commencer en premier, c'est ce qui va apporter le plus de valeur. Mais de quelle valeur parle-t-on ?
Oui. Souvent, moi ce que j'ai constaté, c'est que souvent on confondait la valeur avec de la valeur financière, alors qu'on ne parle pas du tout de valeur financière. Alors ça peut être une valeur business pour l'entreprise, évidemment, mais pas que.
Tout à fait. En fait, en agilité, on va chercher à délivrer le maximum de valeur pour l'utilisateur final le plus rapidement possible. Mais dans un projet, on cherche aussi à créer de la valeur pour l'organisation. C'est un autre type de valeur. À mon sens, ce qui est très important, et c'est une des contributions d'un professionnel de l'UX et des professionnels de l'agilité, l'agilité est résolument centrée utilisateur. On parle de user story. Ce qui est très important, c'est d'accepter que la valeur, elle est multidimensionnelle, et de laisser place à chacune des parties prenantes de l'équipe pour qu'ils puissent exprimer ce qui, selon eux, selon leur prisme, apporte le plus de valeur. Donc le professionnel de l'UX, il va apporter cette valeur pour l'utilisateur final, et il est légitime pour le faire, puisque c'est lui qui interagit directement et régulièrement avec les utilisateurs finaux. Le product owner ou un directeur marketing, il sera légitime pour venir évaluer la valeur que ça peut aussi amener pour l'organisation. Et l'équipe technique a aussi sa voix pour juger si certaines choses peuvent amener de la valeur. Alors là, vous allez me dire, la valeur sur le plan technique, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, ça peut être une application qui va être performante, qui va être robuste, qui va être scalable. La performance impacte directement l'expérience utilisateur.
Ok, donc ce que tu es en train de dire, c'est que la définition de la valeur qui aujourd'hui souvent est dans les mains du product owner, dans ta vision, c'est se dire en fait, on accepte que la valeur peut être définie selon différents prismes, on essaye de les couvrir de façon le plus large possible et on fait interagir l'ensemble des parties prenantes pour finalement avoir un consensus sur la définition de cette valeur par story. Alors, sachant qu'une story est une fonctionnalité si on vulgarise au maximum Scrum.
Alors, consensus, pas forcément. Ce qui me paraît essentiel, en tout cas, c'est d'écouter chacune des voix. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un processus de décision qui soit clairement établi et qui soit efficace. Le consensus peut être risqué dans certains cas. Je trouve à titre personnel excellent la méthodologie de décision mise en place dans le livre Design Sprint de Jack Knapp, où il procède en deux temps avec son process de dot voting, de vote par gommette. Le premier round, c'est un sondage. Chacun a le même nombre de voix, le même nombre de gommettes, et il peut positionner ses gommettes sur l'aspect qui lui paraît avoir le plus de valeur. Tout le monde est consulté, tout le monde peut s'exprimer. La deuxième étape, c'est le décideur. Et là, il y en a un. C'est celui qui arbitre. Il arbitre en ayant sous les yeux la carte de chaleur, le résultat du sondage. Ça veut dire que sa décision, elle est fondée sur une connaissance de la perspective de chacune des parties prenantes de l'équipe.
Ok. Ce que tu es en train de dire, c'est que si on reprend ton exemple de tout à l'heure en disant le product owner se retrouve à un moment avec un changement ou un micro-changement qui soit contextuel ou un cas d'usage qui n'était pas prévu, donc il se retrouve devant un micro-changement, plutôt que de devoir l'aborder lui-même et de trouver une solution, il va faire appel à un maximum il va faire appel à un maximum de personnes parties prenantes de l'équipe, donc dans l'équipe UX, au niveau des développeurs, etc., qui vont l'aider à définir le niveau de valeur de ce ou comment résoudre ce problème-là et le niveau de valeur que ça peut avoir. Et lui, derrière, va avoir ce rôle de décideur, mais il aura les informations pour pouvoir prendre une décision en conscience.
Tout à fait. Ce qui va lui permettre d'expliquer sa décision et ce qui va faciliter l'adhésion à sa décision.
Ok, donc là, on a un premier élément qui nous dit on a des projets où on... On a un premier élément dans notre prédicat de départ, c'était on a une rupture qui existe entre la phase de conception et la phase de réalisation. Ce qu'on est en train de se dire, c'est revenons toujours sur qu'est-ce qui apporte de la valeur, et pour définir ce qui apporte de la valeur, on a besoin de toutes les parties prenantes pour à chaque fois se recentrer sur ce qui va apporter de la valeur à la fin, donc rester aligné sur la vision. Est-ce que tu as d'autres exemples de choses qui peuvent être mises en place pour accompagner justement ces projets, faire en sorte qu'on reste aligné tout au long du projet et améliorer le delivery?
Alors, un conseil, j'ai envie de dire, c'est une piste de solution, c'est une piste de réflexion. Je n'ai pas la prétention de dire que ça fonctionne à tous les coups, mais on constate que ça a un impact positif. C'est d'avoir une personne fil rouge. C'est d'avoir un trait d'union, quelqu'un qui va être le liant entre cette dimension centrée utilisateur, qui va amener cette valeur utilisateur, et la dimension agilité avec un certain cadencement du delivery. Une des manières possibles, c'est de faire monter à bord du projet quelqu'un qui va avoir une double casquette de PO UX. Quelqu'un qui va vraiment être impliqué très fortement dans la phase de discovery et qui va ensuite rester impliqué assez fortement dans la phase de delivery, par exemple en portant la casquette de product owner.
Ok, donc là, c'est dire tu viens élargir les compétences d'une personne de manière à ce qu'il soit présent sur l'ensemble des phases. Est-ce qu'on ne perd pas un peu en expertise en faisant ça sur la partie UX ou sur la partie PO, puisque tu vas demander à une personne de porter deux compétences très fortes des deux côtés?
Alors, c'est une très bonne question. Sur la première partie qui est en amont, non, puisque le travail va porter exclusivement sur la partie research, exploration. En sachant qu'on peut très bien s'entourer de plusieurs personnes. Cette recherche, elle peut être faite à plusieurs. Et pendant la partie de delivery, tu as raison de le souligner. Ce qui paraît important, c'est d'embarquer un autre profil dans l'équipe de réalisation qui pourrait être un profil plus UX-UI dans ce cas-là. Quelqu'un qui va venir épauler le POX sur la dimension compréhension des besoins utilisateurs, éventuellement mener des tests utilisateurs, mais qui va aussi avoir ce rôle très opérationnel de décliner des spécifications sous forme d'écran prêt à être intégré. Ce qui va permettre d'être très réactif. Quand on a besoin d'ajuster une spécification, de pouvoir aussi l'ajuster sur le plan visuel. Ça facilite sa compréhension et surtout, ça va permettre son intégration dès le sprint suivant.
Merci, c'est très clair. Moi, de mon côté, j'avais aussi un élément qui était lié plutôt à la partie direction. Mon métier, c'est plutôt d'accompagner des dirigeants, des directions. Et ce qu'on va souvent voir, c'est que ces personnes-là vont attendre qu'on leur présente un produit tel qu'il sera et ils s'attendent à ce que le produit fini ressemble à ce qu'on leur a présenté au départ. Or, la réalité est tout autre, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on a imaginé au départ et ce qui est produit, ce dont on a réellement besoin, il peut y avoir un décalage. Il vaut mieux s'adapter à ce qui est nécessaire de faire, ce qui va apporter la fameuse valeur, plutôt que s'arc-bouter sur ce qu'on avait prévu au départ. Et le but, c'est aussi d'accompagner les directions, et que ça peut être fait soit par des externes comme mon métier, ou directement les équipes qui vont accompagner leurs dirigeants, à comprendre que le but n'est pas forcément de développer ce qu'on a prévu au départ, mais le but, c'est de développer ce qui est utile pour l'utilisateur final et ce qui va apporter de la valeur à l'utilisateur ou à l'organisation. Et ça, c'est un travail d'évangélisation en interne. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, enfin, ou que tu fais, toi, sur la partie UX ou la partie PO vis-à-vis de tes donneurs d'ordre?
Alors, avec les clients qu'on accompagne, avec nos partenaires, le conseil qu'on leur donne, c'est qu'on puisse les accompagner dès le début, le plus tôt possible, d'une part, et d'autre part, sous une modalité plus de partenariat, plutôt que de sous-traitance. Alors ça, pour deux raisons. Plus tôt on monte à bord, et plus on va pouvoir faire entendre sa voix. Faire entendre sa voix, ça ne veut pas dire décider à la place d'eux. Le décideur reste le décideur. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en prenant l'exemple du dot voting dans la méthodologie de design sprint, le décideur décide en écoutant les voix qui sont autour de lui. Donc nous, ce qu'on conseille, on dit faites monter à bord dès le début. Vous lancez votre bateau à la mer, faites monter un UX à bord. Comme ça, il va pouvoir s'exprimer et vous allez pouvoir l'écouter dès le démarrage. L'autre chose, on conseille de fonctionner en partenariat. Pourquoi ? Se positionner en partenaire, c'est dire on va vous accompagner, on va vous aider à réussir. Être un partenaire, ça veut dire qu'on peut exprimer ce qu'on pense et qu'on peut aussi alerter si on estime qu'on est en train d'aller vers les récifs et qu'on va échouer le bateau. Quand on est dans une logique de sous-traitance, on va être beaucoup plus dans une logique d'exécution avec, tu as utilisé le mot donneur d'ordre, quelqu'un qui communique sa vision et qui s'attend à ce qu'elle soit déclinée. Le risque à faire ça est qu'on ne sache pas comment ou qu'on ne soit pas à l'aise pour émettre des réserves parce que ce qu'on constate sur le terrain pourrait venir challenger les indications qu'on nous a données.
Dac, merci beaucoup pour ce point. Donc, en fait, si je reprends un petit peu ce qu'on est en train de se dire, on ressente finalement tout sur l'humain. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, effectivement, l'UX se concentre sur l'utilisateur, mais on voit que dans les équipes, on va avoir des humains avec des compétences différentes, mais aussi une histoire différente, une culture différente que tous ces êtres humains doivent échanger les uns avec les autres. Et finalement, cette richesse va apporter quelque chose au projet. Ce que tu es en train de dire, c'est plus on a cette richesse, plus on sécurise le projet.
Tout à fait. C'est une véritable intelligence collective. Le fait de prendre en compte les perspectives de chacun évite des risques, parce qu'il se peut qu'une personne détecte quelque chose. Mais pour qu'elle se sente autorisée à pouvoir le partager avec les autres membres de l'équipe, il faut qu'il y ait ce mindset très ouvert de considérer la parole de chacun, d'accepter que certaines personnes puissent avoir des doutes. Et cette dimension humaine, elle est fondamentale. Ça va être le ciment de l'équipe. C'est ce qui va assurer qu'on a une cohésion, qu'on a des personnes motivées. Et c'est une des valeurs de l'agilité.
Ouais, c'est dans le manifeste agile.
Travailler avec des personnes motivées.
Travailler avec des... Exactement. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est ce que dit le manifeste agile, c'est parle des interactions entre les individus. Finalement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des compétences multiples. Ces compétences peuvent être très fortes chez les individus, mais si on ne travaille pas les interactions et le fait de favoriser ces interactions à tous les moments du projet, on fragilise le projet et on se retrouve avec des très bonnes personnes qui sont qui finalement travaillent dans leur coin et font un projet chimère. On en avait parlé quand on a préparé ce podcast. Alors, ni toi ni moi ne sommes fans de foot, mais finalement, c'est vraiment ça l'idée. C'est comme si on a une équipe de foot avec les meilleurs joueurs au monde, mais qui ne savent pas se passer le ballon les uns les autres. Donc finalement, ils ne marqueront jamais un but et ils vont en encaisser. Et c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire, le plus important, c'est d'arriver à se passer la balle plus que d'être le meilleur dribbleur au monde, quoi.
Oui, tout à fait. À jouer collectif. On peut prendre l'image du chef d'orchestre au sein de l'orchestre, quelqu'un qui va permettre à des grands musiciens de jouer ensemble, en harmonie, sur le même rythme et guider vers un objectif commun.
Ok, alors si j'essaye de résumer notre conversation du jour, finalement, on identifie qu'il y a un certain nombre de projets sur lesquels on va avoir ce déphasage, ce décalage qui amène le projet soit à un échec, soit à un semi-échec. Finalement, ce qu'on identifie, c'est que les causes de ces échecs sont souvent liées au fait qu'il y a une rupture en termes des compétences présentes sur les projets ou de l'interaction des individus sur ces projets. Donc, ce qu'on en tire, c'est qu'on a besoin de personnes qui sont là sur l'intégralité du projet et notamment des personnes en UX parce qu'elles ont cette vision toujours centrée vers l'utilisateur, qu'on favorise le fait que tous les membres de l'équipe puissent interagir et donner leurs opinions et interagir les uns avec les autres pour dérisquer, enlever l'incertitude sur le projet et identifier où est la valeur et finalement s'assurer que de bout en bout, on reste toujours en phase avec ce qu'attend l'utilisateur et quelle était la vision de départ. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Ah ouais, pas mal.
Ok. c'est super, merci Romain. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a un certain nombre d'éléments sur lesquels travailler. Romain, j'ai une question additionnelle. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais ?
J'essaierai de ne pas l'oublier chez le boulanger. C'est une bonne question. Moi, le vœu que je ferais, on a beaucoup parlé d'humain aujourd'hui, de collectif. Si j'avais une baguette magique, d'un coup de baguette sur un projet, j'aimerais que l'humain soit au premier plan. ça soit vraiment quelque chose qui soit pris en compte à toutes les étapes du projet. On en a parlé en permanence, que ça devienne une évidence d'écouter, de prendre en compte les avis de chacun, de chacune, que ce soit un client, que ce soit un utilisateur final, un usager, un patient, un membre de l'équipe de réalisation, un collègue, un membre de la direction, et qu'on arrive finalement à intégrer les perspectives différentes, non pas comme des freins, mais comme des opportunités d'élargir notre vision du monde.
Toujours cette vision, et qui n'est pas que sur les projets, puisque c'est celle qu'on partage, surtout se transforme sur une vision d'organisation, de management, qui est que la diversité est source de créativité, d'innovation, de résilience pour l'organisation. Donc il faut favoriser cette diversité. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut suivre Sogilis?
Alors, sur LinkedIn, tout simplement.
Tout sur LinkedIn, ok, très bien.
N'hésitez pas à consulter notamment... On essaye de creuser ce fil rouge vraiment de lien entre l'UX et l'agilité via le rôle combiné de POUX dont on a parlé en interviewant des professionnels du secteur. Donc on publie ces interviews sous forme de tribunes qui sont publiées sur Medium et relayées sur le compte LinkedIn de Sogilis.
Je trouve ça assez intéressant de faire le lien puisque les deux métiers sont quand même très proches et effectivement on voit qu'aujourd'hui la différence c'est à quel moment ils interviennent et finalement de faire le lien entre les deux, il y a une vraie idée de changement là-dedans. C'est plutôt intéressant, donc à suivre effectivement et à aller voir sur les réseaux sociaux, sur les publications qui sont faites par Sogilis sur ce sujet. De notre côté, je vous rappelle que le collectif Tous Transforme est assez actif sur les réseaux sociaux, majoritairement LinkedIn évidemment, donc vous, je vous invite à suivre la page sur LinkedIn. Concernant le podcast, pensez bien à mettre vos petites étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous aide beaucoup et d'un autre côté ça touche. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute, merci Romain d'avoir été présent.
Merci JS.
Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.